Évangile selon Luc, chapitre 3. Prédication de Jean le Baptiseur, versets 1 à 20.
Lecture de la parole. Or, en la 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, et Hérode tétrarque de la Galilée, et Philippe son frère tétrarque de l'Iturée et de la contrée de Traconite, et Lysanias, tétrarque de la Bilène, sous la souveraine sacrificature d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu vint à Jean, le fils de Zacharie, au désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance en rémission de péché, comme il est écrit au livre des paroles d'Ésaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera abaissée, et les choses tortues seront rendues droites, et les sentiers raboteux deviendront des sentiers unis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient ? Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous dis que Dieu peut de ses pierres susciter des enfants à Abraham. Et déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et les foules l'interrogèrent, disant, « Que faut-il donc que nous fassions ?» Et répondant, il leur dit, « Que celui qui a deux tuniques en donne à celui qui n'en a point, et que celui qui a des vivres fasse de même. » Et des publicains vinrent aussi pour être baptisés. Et ils lui dirent, « Maître, que faut-il que nous fassions ?» Et il leur dit, « Ne percevez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. » Et des gens de guerre l'interrogèrent aussi, disant, « Et nous, que faut-il que nous fassions ?» Et il leur dit, « Ne commettez pas d'extorsion, ni n'accusez faussement personne, et contentez-vous de vos gages. » Et comme le peuple était dans l'attente et que tous raisonnaient dans leur cœur à l'égard de Jean, si lui ne serait point le Christ, Jean répondait à tous disant, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. » Il a son vent dans sa main, et il nettoiera entièrement son aire, et assemblera le froment dans son grenier. Mais il brûlera la balle au feu inextinguible. Et faisant aussi plusieurs autres exhortations, il évangélisait donc le peuple. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par lui au sujet d'Hérodias, la femme de son frère, et à cause de toutes les choses méchantes qu'Hérode avait faites, ajouta encore à toutes les autres celle de mettre Jean en prison.
Lecture de l'étude. 30 ans environ s'étaient écoulés depuis la naissance de Jean le Baptiseur. Tibère avait succédé à Auguste comme empereur. Ponce Pilate gouvernait la Judée. Hérode, fils du roi du même nom, était tétrarque de la Galilée. Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée et de la contrée de Traconite, et Lysanias, tétrarque de la Bilène. Anne et Caïphe étaient souverains sacrificateurs. Une note en bas de page, ces trois contrées étaient situées au nord et à l'est de la Palestine. Le tétrarque était le gouverneur de la 4e partie d'un État démembré. Par l'énumération des diverses contrées qui formaient autrefois le pays d'Israël, toutes gouvernées par des gentils, l'Esprit de Dieu fait ressortir l'assujettissement de son peuple aux nations à cause de ses péchés et la nécessité du ministère qui va s'exercer au milieu de ce peuple en vue de le délivrer, de le ramener à Dieu pour l'accomplissement des promesses. La 15e année du règne de Tibère, la parole de Dieu vint à Jean qui habitait dans le désert. Son ministère devait, selon la prophétie d'Ésaïe, précéder l'arrivée du Messie. Dans toute l'histoire d'Israël, on remarque que Dieu envoyait des prophètes au peuple quand il marchait mal, afin de le ramener à l'obéissance. En même temps, il le menaçait de jugement s'il ne se repentait pas et lui annonçait sa restauration après les jugements par la venue du Messie. Jean, un de ses prophètes, portait un caractère spécial. Il ne cherchait pas à ramener le peuple à la loi, c'était inutile. Il devait le préparer à recevoir le Seigneur. Il se tenait en dehors du peuple, dans le désert. Comme il est écrit au livre des paroles d'Ésaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera abaissée, et les choses tortues seront rendues droites, et les sentiers raboteux deviendront des sentiers unis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Versets 4 à 6, citation d'Ésaïe 40, versets 3 à 5. Ce langage figuré d'Ésaïe décrit l'œuvre qui doit s'accomplir dans les cœurs, non pour revenir à la loi, comme nous l'avons dit, mais afin de les amener à un état moral propre à recevoir le Seigneur. Il ne suffisait pas de dire, comme au verset 8, « Nous avons Abraham pour père, pour jouir des bienfaits qu'apportait le Seigneur. » Il fallait l'œuvre de la repentance dans chaque cœur individuellement. C'est cette œuvre que le ministère de Jean devait produire. Il prêchait le baptême de la repentance, acte par lequel on reconnaissait publiquement sa culpabilité. À ces gens-là, le Seigneur apporterait la rémission de leurs péchés. Le travail de Dieu s'opère de la même manière pour la conversion. Avant de recevoir le pardon de ses péchés, il faut qu'une œuvre profonde s'accomplisse par la parole de Dieu dans le cœur et la conscience, œuvre qui consiste à reconnaître son état de péché et à accepter le jugement que Dieu porte sur un tel état. Celui en qui ce travail s'accomplit, tremblant sous la menace de la juste colère de Dieu, accepte avec joie le Sauveur qu'il a subi à sa place. Des foules venaient auprès de Jean afin d'être baptisées, mais sans que le travail de la repentance se produisît en elles. Il est facile d'accomplir un acte extérieur, grâce auquel on prétend avoir un droit à la bénédiction, tandis que le cœur demeure insensible à la vérité qui dévoile d'un côté le mal, de l'autre la sainteté de Dieu. On peut recevoir le baptême chrétien, prendre la scène et demeurer inconverti, par conséquent perdu. Jean discernait cette légèreté dans la foule, c'est pourquoi il disait « Race de vipères ! Qui vous a averti de fuir la colère qui vient ? Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père », car je vous dis que Dieu peut, de ses pierres, susciter des enfants à Abraham. » Versets 7 à 8. Dieu ne veut pas des formes, mais des fruits, des actes, un changement de conduite, qui découle de l'action de la parole dans le cœur et la conscience. Plusieurs fois, jadis, le peuple revint à Dieu, mais d'une façon passagère seulement. Osée dit, « Votre piété est comme la nuée du matin et comme la rosée qui s'en va de bonne heure. » Chapitre 6, verset 4. Et Ésaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. » mais ils m'honorent en vain. Ésaïe 29, verset 13, cité en Matthieu 15, verset 8. Cette fois, Jean leur dit que la cognée est déjà mise à la racine de l'arbre, prête à l'abattre s'il ne produit pas de bons fruits. Le jugement allait donc s'exécuter sur ceux qui ne répondaient pas à l'appel du prophète. Il frappa Israël après la mort de Jésus, mais il aura lieu définitivement sur le peuple apostat lorsque Jésus établira son règne, comme accomplissement de ce que Jean annonce au verset 17. Les foules l'interrogèrent, disant « Que faut-il donc que nous fassions ?» Verset 10. Jean leur recommande d'exercer la bonté les uns envers les autres. Aux publicains, ou péagers, qui s'enrichissaient aux dépens des contribuables, il dit de ne rien percevoir au-delà de ce qui leur était ordonné. Une note en bas de page, publicain ou péager, percepteur d'impôts. Aux gens de guerre, il prescrit de s'abstenir d'extorsions et de fausses accusations, en d'autres termes de ne pas user de la force qu'ils représentent à leur avantage, mais de se contenter de leur gage. En principe, ce que Jean réclamait de la part de Dieu, c'était la pratique de l'amour et de la justice qui doit caractériser tout croyant. En entendant le prophète, le peuple se demandait s'il ne serait point le Christ. Jean leur répondit, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent dans sa main, et il nettoiera entièrement son air. Il assemblera le froment dans son grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible. » Versets 16 et 17. Jésus venait. Ceux qui le recevraient seraient baptisés de l'Esprit Saint. Ils posséderaient la puissance d'une vie qui les rendrait capables d'accomplir le bien. Ceux qui resteraient indifférents à la prédication de Jean, qui demeureraient dans leur péché, en rejetant Jésus, seraient baptisés de feu, c'est-à-dire subirait le jugement. C'est ce qui allait arriver à Israël comme peuple, appelé ici l'ère de Dieu. Le froment, ceux qui écouteraient et croiraient, seraient mis à part, tandis que les méchants, la balle, seraient l'objet du jugement final. Il importait donc d'écouter la prédication de Jean, car il faudrait avoir affaire un jour ou l'autre avec le Seigneur comme juge. S'il en était ainsi au jour de Jean, à la fin de l'histoire d'Israël responsable, il en va de même maintenant au terme de l'histoire de l'Église responsable. Nous arrivons au temps où le froment va être assemblé dans le grenier de Dieu et livré et jeté au feu. Matthieu 13, versets 30 et 40 à 42.
Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Comme donc l'ivraie est cueillie et brûlée au feu, il en sera de même à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. »
Jean exhortait le peuple de diverses manières et évangélisait. Hérode, même, dans son immoralité, n'échappa point aux objurgations du prophète. Repris par lui au sujet de la femme qu'il avait, c'était sa belle-sœur, et à propos de toutes ses mauvaises actions, il n'accepta pas ses avertissements et fit jeter Jean en prison, d'où il ne sortit pas, comme nous l'apprenons ailleurs. Luc termine le récit de l'activité de Jean avant de parler de celle de Jésus, parce qu'il présente, avec Jean, la situation en rapport avec Israël, sa propre naissance, son ministère, dans le cadre de l'histoire d'Israël, ainsi que la naissance de Jésus. Cette histoire se termine moralement par le rejet de Jean. Celle de la grâce dans la personne de Jésus, le Fils de l'homme, va commencer. Luc ne suit, en effet, pas toujours l'ordre chronologique des faits, mais bien l'ordre moral. Ainsi, moralement, le ministère de Jésus suit celui de Jean, quoique historiquement, celui de Jean se soit encore exercé quelque temps en même temps que celui de Christ commencé. Beaucoup de prétendues contradictions dans les récits des divers évangélistes trouvent leur explication lorsqu'on a compris cela. Baptême de Jésus, versets 21 à 38.
Lecture de la parole. Et il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi, étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il y eut une voix qui venait du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Et Jésus lui-même commençait d'avoir environ 30 ans, étant, comme on l'estimait, fils de Joseph, d'Élie, de Matta, de Lévi, de Melki, de Janna, de Joseph, de Matati, d'Amos, de Naum, d'Esli, de Nagjé, de Maat, de Matati, de Séméi, de Joseph, de Juda, de Johanna, de Reza, de Zorobabel, de Salatiel, de Néri, de Melki, d'Addi, de Kozam, d'Elmodam, d'Er, de José, d'Eliézer, de Jorim, de Matta, de Lévi, de Siméon, de Juda, de Joseph, de Jonan, d'Eliakim, de Méléa, de Maïna, de Matata, de Nathan, de David, de Jessé, d'Obed, de Boaz, de Salmon, de Naasson, d'Aminadab, d'Aram, d'Esrom, de Phares, de Juda, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Tara, de Nacor, de Séruc, de Ragahu, de Phalek, d'Héber, de Sala, de Caïnan, d'Arphaxad, de Sem, de Noé, de Lamech, de Mathusala, d'Enoch, de Jared, de Maléléel, de Caïnan, d'Enos, de Seth, d'Adam, de Dieu.
Lecture de l'étude. Avec le baptême de Jésus commence l'histoire de son activité. La grâce lui fait prendre place, comme homme, au milieu de ceux qui viennent à Jean. Il entre en scène d'une manière touchante, en s'associant aux pécheurs repentants, leur montrant qu'il vient au milieu d'eux comme un vrai homme. Quoiqu'il n'ait aucun péché à confesser, il se fait baptiser comme eux, afin de les encourager dans le chemin qui aboutira pour eux, comme pour lui, à la gloire, avec cette différence pourtant que Jésus devra passer lui-même par le jugement que ses repentants avaient mérité. Il entrera de plein droit dans la gloire et les rachetera par grâce. La position que prend Jésus nous enseigne une vérité très encourageante. Dès qu'une âme reconnaît sa culpabilité, le Seigneur se tient auprès d'elle pour l'encourager dans le chemin de la repentance qui aboutit à une pleine délivrance, tandis qu'il ne peut s'associer aux orgueilleux qui se justifient eux-mêmes. Il leur résiste. La manière dont Luc parle de Jésus au début de son ministère s'accorde parfaitement avec le caractère de Fils de l'homme, homme dépendant, sous lequel l'Esprit de Dieu le présente tout au long de cet évangile. Seul Luc rapporte que Jésus priait à son baptême lorsque le ciel s'ouvrit sur lui. Dieu reconnaît cet homme comme son Fils, en qui il a trouvé son plaisir. Il peut le sceller du Saint-Esprit en vertu de ses propres perfections. Dieu ne veut pas que son Fils se confonde avec les pécheurs qui l'entouraient, tout excellents que fussent les repentants pour son cœur. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il y eut une voix qui venait du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Verset 22. Non seulement Dieu trouvait ses délices de toute éternité en son Fils unique, mais maintenant il les trouvait en lui, l'homme parfait, humble de cœur, venu dans ce monde pour accomplir ses conseils éternels. En vertu de la perfection de l'œuvre de Christ, le croyant se trouve dans une position telle que Dieu peut aussi le sceller du Saint-Esprit et le faire jouir de sa faveur. Jésus était oint du Saint-Esprit parce qu'il était fils de Dieu, sans aucune trace de souillure. Le croyant l'est parce que, devenu enfant de Dieu, le sang de Christ a effacé toutes ses souillures. Dieu peut prendre son plaisir en lui en vertu de l'œuvre de Christ. Il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, Éphésiens 1, verset 6. Nous avons trouvé accès à cette faveur dans laquelle nous sommes, Romains 5, verset 2. Comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde, 1 Jean 4, verset 17. Nous comprenons un peu ce que le Seigneur, le Fils de Dieu, est pour son Père, et quelle gloire lui reviendra éternellement pour avoir accompli une œuvre semblable, qui a de si glorieux résultats. Et que ne doit-il pas être pour celui qui fait l'objet de son amour, maintenant et pour l'éternité? La généalogie de Jésus du côté de sa mère termine ce chapitre, tandis que Matthieu nous la donne du côté de Joseph, en partant d'Abraham, souche de la promesse, comme il convenait à l'évangile qui présentait le Messie. La généalogie de Luc, celle du Fils de l'homme, part de Jésus par Marie pour arriver à Dieu par Adam. Si on enlève tous les noms de Joseph, verset 24, à Adam, il reste Fils de Dieu, verset 38, ce qu'il était tout en étant Fils de l'homme. Et Jésus lui-même commençait d'avoir environ 30 ans, étant, comme on l'estimait, fils de Joseph, verset 23. On l'estimait fils de Joseph, mais Joseph n'était que le mari de Marie, lui-même fils de Jacob, fils de Matan, etc. Matthieu 1, verset 15 à 16. Le père de Marie était Élie, fils de Matan, de Lévi, de Melki, etc. Verset 24. La généalogie de Joseph arrive à David par Salomon, et celle de Marie par Nathan. Ces deux fils de David étaient fils de Bathsheba. 1 Chronique 3, verset 5.
Et ceux-ci lui naquirent à Jérusalem, Shima et Shobab, et Nathan et Salomon, quatre de Bathsheba, filles d'Amiel.